on a, grâce à François de Limoges, ici présent, mené cette exposition qui est une invitation auprès de 25 artistes de réfléchir, à de se mettre, de faire une immersion dans le futur et d'imaginer comment serait notre rue, notre ville, notre vie en 2037. Et juste un point de détail, il y aura un petit bébé à la suite d'une génération suivante, à la suite de cette exposition, puisqu'il y a une publication qui est la four qui est là, qui va recevoir des multiples de chaque artiste qui voudra bien les proposer, puis il y en a déjà un certain nombre, qui sera un multiple à 50 exemplaires donc, et ça fera une pochette dans laquelle on retrouve ce travail qui aura des fois un peu évolué. J'ai déjà vu une pièce qui fait comme un pas supplémentaire par rapport à l'exposition, et qui c'est comme une exposition portative finalement de la même exposition. Donc je vais laisser la parole à Madame Ronconi, qui est donc Giovanna Ronconi, qui travaille à l'État en tant qu'urbaniste chargée de projet, et à Pierre Chapuis, qui a travaillé comme urbaniste à la ville et qui pour l'instant travaille de manière indépendante sur d'autres communes. Voilà, merci, je crois qu'on peut les recevoir. Merci.
Tout d'abord, j'aimerais remercier cette opportunité d'être ici avec Pierre, cette invitation de Franquenin. C'est important pour moi aussi d'indiquer que je parle ici au nom personnel d'urbaniste que je suis, plus que et pas comme à la chef de projet à l'État de Genève. Et donc c'est ce qu'on a proposé, c'est que je passe en revue quelques éléments. Franck nous a demandé on peut regarder ce qui s'est fait dans d'autres villes. Quelles sont un peu des pistes, des réflexions pour que Pierre puisse compléter, qu'on puisse un peu animer les débats. Mais l'important pour nous, c'est de pouvoir échanger avec vous, d'entendre c'est ce que vous pensez et comment vous imaginez la ville de Genève, le canton sans voiture. Alors, le thème, c'est regagner le temps et la liberté. Alors, j'ai pris cette image que c'est cette manifestation de Genève sans voiture pendant toute une journée qui a eu lieu en 2018. Et c'est les ponts de Mont-Blanc qui étaient envahis par des habitants qui ont pu prendre un pique-nique pendant les dimanches. Après, la question du transport, depuis les années 90, on parle des distances. La distance, c'est temps fois vitesse. Et c'est ce qui détermine, c'est ce qui a déterminé longtemps les trajets. C'était la distance d'aller à la maison au travail. C'était très fonctionnel. J'allais de ma maison au travail, j'allais de ma maison au loisir. Et aujourd'hui, c'est ce qui est déterminant pour notre déplacement, c'est le temps du parcours. Des fois, on peut parcourir une distance beaucoup plus importante, mais plus courte en temps. Et dans notre trajet, on fait aujourd'hui, dans notre mode de vie, plusieurs choses avant d'arriver à la maison. Donc, c'est plus compacté comme ça a été avant. J'ai voulu aussi indiquer cet élément important que aujourd'hui, la majorité de la population de la planète est en ville depuis les années 2000 déjà. Et une thèse qui dit que la multiplication des routes suscite une augmentation de circulation. Et ça, c'est aussi déjà prouvé. C'est vraiment une thèse, c'est pas que une intuition. Vous sensibilisez par rapport à la taille de Genève. C'est malheureusement, on va mal à cause de la vieillière, mais en gros, de Genève, Cornavant, jusqu'à la limite vers Soir, on a 10 km. Et si on prend 5 km, on arrive de Cornavant à l'aéroport, de Cornavant à Mars, à la limite de la frontière. Et ces distances, c'est des distances, on peut le dire, propre au vélo. On peut, avec le vélo, utiliser aisément cette distance pour nos locomotions. D'autres chiffres importants, c'était que les 38% de déplacements de voiture à Genève sont faits pour les loisirs, 20% pour le travail. Et c'est ce qui j'attire votre attention, c'est ces chiffres. C'est que 45% des déplacements de voiture sont faits à moins de 5 km. C'est ça ce qui est assez surprenant. C'est que dans toutes ces centres-villes, toutes ces petites courtes distances, 40% de ces déplacements sont faits sur ces courtes distances. Après, très rapidement, les exemples dans d'autres villes. Donc, Copenhague, c'est une ville où ils ont mis beaucoup d'accent sur les vélos. Et ce n'est pas diminuer la voiture, c'est que le fait que les vélos et les déplacements à pied ont eu lieu, ça a permis de couper l'espace urbain par des cheminements et de les faire vivre. Et c'est ce qui a donné un accroi de l'utilisation d'espaces publics. Donc si on voit en 68, il y avait vraiment très peu d'activités, 1700, mais au fur et à mesure des années, à la fin 86, il y a 4580 activités et 1995 déjà 6000 pratiquement. Donc plus on rend poreuse cette ville, plus elle devient animée, les gens s'en approprient. La ville de Londres, c'était montrer un autre type d'exemple. Ils ont plutôt utilisé un péage urbain et cette taxe de congestion a fait une diminution de 40% du nombre de véhicules au centre-ville. Melbourne, c'était très intéressant. C'était une ville des gratte-ciel, très morte. Et ils ont voulu donner une importance aux piétons. Et ils ont créé des places, ils ont créé des rues ruelles, ils ont créé des promenades le long de la rivière. Et c'est ça ce qui a fait l'animation et incité surtout les citadins à marcher. Quelques pistes de réflexion donc, pour la suite. Donc, quelques mots-clés que je trouve intéressants. Donc, c'est la transition. Donc, la ville est en mutation. Il s'agit de travailler ces transitions. Il y a des rapports très complexes dans les territoires de comment les gérer, comment intégrer ces différentes logiques et ces différentes échelles, les différents usages avec plusieurs types de usagers. Donc, il y a des mots qui apparaissent, intermodalité, cohabitation, privilégier les piétons. Je sais que vous aurez une autre conférence sur les piétons. Après, un petit clin d'œil, c'est une intervention d'un artiste, Bill Viola, qui s'appelle Crossing. Donc, c'est aussi la question de la marche comme élément Les philosophes disent que la marche elle est importante pour permettre la réflexion. Et donc là, c'est un peu de démontrer la transcendance par le fait de marcher.
Se ressourcer, vu l'image.
Oui, c'est un peu les ressourcer avec l'eau qui fait l'homme disparaître. La rationalité, donc la rationalité écologique, donc il y a l'impact sur l'environnement, sur l'air, sur les ressources. Économique, une voiture coûte un impact important dans les coûts d'une famille, dans les portefeuilles d'une famille. Politique, c'est par rapport au vieillissement important de la population et que les gens âgés ont des difficultés à utiliser la voiture et en plus les enfants ne l'utilisent pas, ni les jeunes, donc il y a une action politique là-dessus. Et spatiale, parce que l'emprise. Pour qu'un véhicule puisse circuler en ville, l'emprise qu'on utilise en ville, c'est de 4 à 5 la taille de la voiture pour qu'il puisse circuler. Donc c'est un impact très important sur l'espace qu'il utilise. À part la question durable, à part tous les éléments que je viens de citer, c'est important de parler du réchauffement climatique et comment se voit ces voies vont devoir se développer pour assimiler la question du réchauffement climatique. Donc je prie ces deux exemples. La ville de Lausanne qui est en train de peindre ses rues avec une teinture blanche pour un peu diminuer des 1 à 2
absorption calorique.
Oui, degrés. Et aussi la ville de Montréal qui déminéralise déminéralise ses rues et crée des espaces verts. Alors tout ça, ça pourrait se faire avec des décisions qui pour moi nécessitent une concertation. C'est que je trouvais intéressant ce proverbe africain qui dit « Si tu veux faire pour moi, si tu fais sans moi, tu risques de faire contre moi ». Je crois qu'aucune action si importante que celle qui auront lieu ces prochaines années pourront se faire sans les citoyens. Et aujourd'hui, la question, c'est qu'il va falloir innover. Donc, il y a des... Je ne sais pas... Comme urbaniste, je pense que la voiture, je ne sais pas si elle va disparaître, mais il y a ici une image de la voiture autonome. Et comme application personnelle, je suis en train de créer une application pour créer une sorte de portrait de la mobilité des gens dans les quartiers pour au moment qu'on vient parler de la développement d'un quartier, on puisse un peu sensibiliser mieux les gens de qu'est-ce que ça veut dire, quel type de mobilité ils ont, quel type de parcours, s'ils aiment ou pas, et quel impact sur leur santé. Le fait que s'ils marchent ou qu'ils utilisent les vélos, il y a aussi une question d'optimisation de trajet et un élément bénéfique pour la santé. Donc, j'aimerais terminer pour vous dire que pour ce qui est à l'avenir, il ne s'agit pas de les prévoir, mais plutôt de les rendre possibles.
Merci, Yolande. Je vous propose d'enchaîner droit direct, puis de se laisser après un petit temps de discussion. Franck n'a pas précisé que j'ai aussi bossé au service social, donc j'en ai tiré quelques mauvaises habitudes. Notamment, je vous propose que, moi j'ai rien à projeter, qu'on se rapproche et qu'on se mette en situation physique de pouvoir discuter, comme ça, ça pourra faire un plus chouette effet. Donc moi, je ne vais pas vous montrer l'image, je vais vous les suggérer, et puis ce sera vos propres images dans votre écran intérieur. Oh, je peux commencer droit direct, hein, pendant qu'on s'installe, on s'en fiche. Donc je reviens sur le titre de la conférence, « Gagner du temps et de la liberté ». Pourquoi ce titre bizarre ? Bon, de manière très très pragmatique, je vais vous dire que quand Franck m'a proposé la conférence, je me suis dit, bon sang, qu'est-ce que je vais dire ? Il faut que je gagne du temps et que je me laisse un petit peu de marge de manœuvre pour mon sujet. Donc c'était déjà, ça s'adressait déjà à moi, gagner du temps et de la liberté. Mais c'était une façon, moi, qui me paraissait assez intéressante d'entrer dans ce sujet de la mobilité par des notions peut-être plus générales, mais qui nous concernent tous en tant qu'humains. Des villes, c'est pour les humains. Alors, finalement, les unités de valeur qui caractérisent la qualité de vie, est-ce que ce n'est pas essentiellement le temps et la liberté ? Si j'ai du temps et si j'ai de la liberté, je n'ai même pas besoin d'argent. J'ai la liberté de pouvoir faire tout ce que je veux, donc j'ai accès à toutes les ressources. Ces valeurs un peu extrêmes du temps et de la liberté sont finalement, peut-être, ce que cherche à acheter l'argent avant tout. S'ils avaient beaucoup d'argent, j'achèterais beaucoup de temps pour moi et beaucoup de liberté pour moi. Et finalement, c'est de la valeur, monétisable ou pas, mais en tout cas, c'est de la valeur et qui nous concerne tous. Et ces questions de valeur, finalement, le temps qu'on passe ici, par exemple, est-ce que c'est un temps qu'on vous prend ? Non, c'est un temps que vous vous donnez. Vous êtes venu, moi je suis venu, j'ai du plaisir à échanger avec vous, et pour moi, ce temps, c'est aussi de la liberté. Tout ça se mélange et s'articule. Ça s'articule aussi sur le territoire. Finalement, tout ce qui concerne la mobilité, comment on se déplace d'un point à un autre, touche des questions de temps et touche des questions de liberté dans des dimensions qui sont cette fois-ci territoriales. Comment se décline le temps sur le territoire, Giovanna l'a dit, c'est la vitesse. Et puis comment se concrétise la liberté sur le territoire, c'est là où je peux aller ou là où je ne peux pas aller. Et il y en a bien des endroits en ville où finalement, si on y réfléchit un petit peu, on ne peut pas aller parce que ce n'est pas un espace qui nous est réservé. On peut faire une ou deux fois par an se payer le luxe de traverser le pont du Mont-Blanc par l'axe central, de se dire « Waouh, ça c'est à moi !» Mais une ou deux fois par an, maxi. Et puis dans ce cas-là, il y a beaucoup de monde. Donc tout ça parle aussi de temps et parle aussi de liberté. Ensuite, ma liberté, c'est ma liberté d'aller ici ou d'aller là. Ça peut être une contrainte. J'ai dû aller à Annemasse aujourd'hui, je me suis payé ce que Giovanna a dit, je me le suis fait en me disant que j'allais vous le raconter ce soir. J'ai fait en vélo, et c'était vachement bien. Et ce temps n'était pas un temps qu'on m'a pris, c'était un temps pour moi. Petit clin d'œil aussi, quand j'ai fait ma balade cet après-midi, je n'étais pas né dans mon téléphone. Là, comme on est nous, on n'est pas né dans notre téléphone. Est-ce que finalement, cette liberté, entre guillemets, un peu marchandisée qu'on nous a donnée avec tous ces appareillages, n'est pas en train aussi de nous enchaîner? Je croise souvent des gens maintenant sur les trottoirs qui sont comme ça, et puis deux gens comme ça qui se croisent, ça se tamponne. Deux personnes qui se croisent, il y a tout un jeu subtil, tellement fin, tellement humain, de se regarder un peu du coin de l'œil, de se décaler de 30 cm pour qu'on se cogne pas sur le trottoir, laisser la place à l'autre de passer, une apportée, même discrètement, même de façon infinitésimale, une attention à l'autre. Alors il y a du temps, il y a de la liberté, et il y a presque aussi une question plus sociale de rapport aux autres. La mobilité questionne et vient tarabuster tous ces enjeux-là. Liberté d'aller ici ou là, mais le temps, c'est aussi un temps de déplacement. J'ai évoqué tout à l'heure comment j'ai transformé tout à l'heure ce qui était une contrainte de déplacement en un temps pour moi. J'ai gagné du temps pour moi. J'ai gagné de la liberté de me dire « je me paye un chouette petit truc qui fait mal à personne, qui ne mange pas de pain ». Mais en même temps, le temps du déplacement, c'est quelque chose, et ça a été établi là encore par des études tout à fait démontré et reconnu, que ce temps du déplacement est un temps totalement subjectif. Et il y a eu le professeur Vincent Kaufmann de l'EPFL, spécialiste reconnu des questions de transport, qui a monté sa première thèse sur la question subjective du temps perçu du déplacement. Si on demande à un automobiliste combien il met de temps pour aller d'un point à un autre, il va à tous les coups sous-estimer son temps de déplacement. Dire « j'ai mis 10 minutes ». Et en fait, quand on regarde vraiment, il en a mis 20. Mais dans sa tête, il en a mis 10. Parce que tout ça, c'est des constructions mentales aussi que nous nous faisons à nous-mêmes et qui font qu'on finit par croire qu'on met 10 minutes alors qu'on en met 20. Et ça va nous mettre une sacrée frustration parce qu'on se dit zut, j'ai perdu, cette fois-ci, c'est perdu 10 minutes. Et je vais m'énerver parce qu'on m'a pris un peu de mon temps. Il va falloir que je me relise un petit peu, donc ne vous formalisez pas si je plonge un peu dans mes notes. Voilà, on parle du temps, on parle de la liberté, mais le titre général de la conférence, c'était « La ville ». Et finalement, c'est quoi une ville ? Parce que maintenant, on ne sait plus très bien. Il y a toute une confusion, est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est le canton, le petit Genève, le grand ? Est-ce qu'au grand ça connaît, avec qui je travaille ces temps-ci, c'est une ville ou pas une ville? Alors, statistiquement, vu que ça dépasse 10 000 habitants, on dit que c'est une ville. Alors, on s'en fout, je veux dire, l'étiquette qu'on y met ou pas. Ce qui est important, c'est que ça fasse ville et que ça donne à ce mot de ville un contenu, quelque chose d'intéressant. Et peut-être si on devait le définir de la façon la plus générale possible, la ville, c'est un bien commun. C'est ma ville, c'est la vôtre, celle de chacun de vous, de chacun de nous. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que du coup, ça fait que c'est quelque chose qui nous concerne tous, qui nous rassemble, c'est ce qu'on fait maintenant, on discute ensemble, c'est quoi ma ville. La ville, c'est aussi la concentration. La ville ne peut pas être dispersée. Si on veut être ville, il faut quand même qu'on soit un petit peu concentré. Concentré pour quoi ? Concentré pour pouvoir échanger. C'est la question fondamentale. Alors, on peut échanger des valeurs marchandes, on peut échanger des idées, comme on fait ce soir. La ville, c'est le lieu idéal pour ça, pour l'échange. Et pour, peut-être, la création de valeurs, fussent-elles financières, quartier des banques, produits de la valeur monétaire, et probablement en ramasse pas mal aussi. Et il est en plein milieu de la ville, l'endroit où se crée la valeur, mais aussi social. Est-ce que ça n'a pas de la valeur, ce moment, ici, qu'on passe entre nous, dans ce lieu un peu décalé, c'est aussi une formidable valeur. Pour Genève en particulier, là je parlais de la ville en général, pourquoi Genève est Genève finalement ? Parce que c'est une implantation stratégique. Par rapport aux axes de liaison nord-sud à très grande échelle au niveau européen et par rapport aux axes est-ouest, on est au croisement. Ah, coup de bol, on est au bout du lac. Chaque fois que je regarde les infos françaises, il y a une carte de France, et puis on voit le petit bout de lac qui rentre dans cette façade est de la France. Et on sait très bien, même sur une carte quasi mondiale, pointer Genève avec une précision extraordinaire, parce qu'on sait que c'est ce bout de lac. Et du coup, ce territoire, admettons qu'on revienne 3000 ans en arrière, même il y a 3000 ans, il n'est pas neutre. Il est déjà chargé de cette capacité à relier le nord et le sud, l'est et l'ouest, et à franchir ce lac qui est un sacré obstacle sur toute sa longueur. Et là, l'endroit où le lac se referme, on peut faire des ponts et on peut aller de l'autre côté, chose qu'on ne peut plus faire après. Donc ce territoire, même non construit, il n'est pas neutre, il est déjà chargé de beaucoup de choses. Genève, c'est aussi une histoire et une culture. Il y a quelque temps au Musée des Délices des expositions de tableaux du XVIIe où on montrait avec cette manière un petit peu à la fois à plat, un peu en perspective, ce qu'était la ville au XVIIe siècle. Et finalement, c'était des murs et dedans un espèce de fourbi de Capharnaüm incroyable, de ruelles étroites, de maisons montées les unes sur les autres, surélevées, resurélevées. Une espèce de bricolage incroyable qui ne devait pas sentir très bon pour faire un petit clin d'œil à Patrick Suskind de Le Parfum. Les villes puaient, disait-il, en commençant son livre. Ben oui, c'était ça la ville, mais complètement enfermée dans un tout petit monde tout serré. Et à ce moment-là, la ville, c'était le lieu d'habitation, non pas des grandes classes sociales, mais des pauvres qui s'entassaient dans ces rues un peu insalubres. Dans ces tableaux du XVIIe, on retrouve par contre, hors ville, ces magnifiques domaines avec des allées clôturées, paysagées, des arbres fruitiers, des essences rares. On en a encore plein maintenant dans la ville qui a grandi. Donc tout ça, c'était une ville minuscule dans ses murs. La ville s'est ensuite étendue dans ses anciens faubourgs, notamment le quartier des Paquis, les quartiers où on est ici maintenant. Et disons qu'on a là un ensemble de quartiers qui sont à la fois historiques, imprégnés de culture, qui sont denses, spécialement denses, et très animées. Ça, si on prend ce morceau-là, que je décris comme ça, ça pèse combien ? Ça mesure combien ? Ça mesure environ 9 km². C'est pas énorme. Ces 9 km² dans la commune, cette fois-ci politique de Genève, la commune de Genève, vous savez combien ça pèse en kilomètres carrés ? L'ensemble de la ville de Genève ? 16. Vous savez, est-ce que c'est la plus grande commune du canton ? Non. C'est Satigny, la plus grande commune du canton, qui en fait 18. Donc tout ça pour dire et insister, c'est tout petit, tout ça est minuscule, par rapport à un grand Genève, cette fois-ci transfrontalier, beaucoup plus grand, qui correspond aussi au bassin d'attractivité économique de cette ville, qui a cette capacité d'attraction extraordinaire. Ce grand Genève, il est 100 fois plus grand. On a un rapport de 1 à 100 entre la commune centre Genève et le grand Genève. Donc quand on parle du petit Genève, entre guillemets, et du grand, 1 à 100 de différence, c'est juste énorme, considérable, fondamentalement énorme. Et du coup, la question du déplacement, elle peut se simplifier à l'extrême. Je vous invite à vous représenter sur votre écran de projection intérieure ce grand rond, 100 fois plus grand que le petit à l'intérieur. Et si tous les gens du grand cercle veulent aller dans le petit avec leur voiture, on va avoir un petit problème. Donc là, on est en train de se frotter à quelque chose qui devient structurellement à peu près invivable. On ne va que concentrer de la frustration si on continue à fantasmer de pouvoir aller de l'extrémité des périphéries genevoises jusqu'à l'hypercentre, chacun dans sa bagnole. Ça ne marche pas juste parce qu'il n'y a pas assez de place. C'est tout simple. Et finalement, cette extension de ce grand Genève, 100 fois plus grand que le petit, qu'est-ce qui a rendu possible cette explosion d'échelle? Ben c'est la bagnole. Et c'est en gros des années, sur 50-60 ans, aller à la louche, que ce développement a eu cet impact. Sur la durée de vie d'une ville, qu'est-ce que c'est que 50-60 ans? C'est peanuts, misérable, c'est rien. En un temps tout petit, on a fait de Genève, on l'a laissé devenir quelque chose d'énorme, sans jamais peut-être en prendre conscience. Et finalement, voilà, ça s'est fait, ça s'est construit, et je crois qu'on a pris conscience de ça, on a commencé à mettre des mots une fois que c'était construit. On n'a pas souhaité ce grand Genève. Il nous est un petit peu tombé sur le coin de la figure, qu'on habite à Bellegarde ou au centre-ville, il est tombé sur le coin de la figure de tout le monde, avec tous les problèmes qui vont avec. Et les politiques publiques, depuis les années 90, ont commencé à pouvoir essayer de conceptualiser des choses. Il y a eu ce fameux Conseil du Léman, il y a eu toute la création de cette dynamique d'agglomération. Chacun a fait des efforts. Et puis maintenant, on arrive à commencer à construire quelques petits éléments. On a commencé à construire, ça casse un peu la tête, hein, mais la voie verte d'agglomération, par exemple, Gare des Eaux Vives, Annemasse. Ah ben enfin, on a un objet qui est conçu sur les deux territoires à la fois. Mais on n'en a pas eu 50 de ces objets. C'est récent tout ça. Ça vient de sortir, la voie verte. Enfin, on arrive à pouvoir habiter un petit peu cet espace très particulier dont la grande forme nous échappe et échappe aussi à ce qu'on pourrait en planifier, en attendre pour en faire quelque chose de vraiment intéressant. Autre exemple, alors cette fois-ci en échec, quand les Genevois ont voulu financer des stationnements sur la périphrançaise pour pouvoir alléger les systèmes de transport, qu'ils soient publics ou privés, sur la Suisse, il y a eu un vote qui a dit non, on ne dépense pas un sou en France. Il va falloir peut-être qu'on repense aussi ces questions-là, parce qu'on est finalement dans une communauté de destin, je le disais en tout début, notre bien commun. Mais qu'on soit français ou suisse, c'est aussi notre bien commun. Donc, comment est-ce qu'on arrive à l'habiter et comment on arrive à gérer cette fabuleuse explosion d'échelle qu'on a eue ces 50 dernières années? C'est pas facile. Et encore, là, on s'en est pas mal sorti, je trouve, parce que si on revient en 1950, on a failli aller encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin en termes de nourrir ce fantasme d'une accessibilité du centre-ville en bagnole pour tout le monde. C'est le moment où se sont construits notamment le quai du Segey sur des anciens quartiers très populaires, hein, ces quartiers à ruelles et à baraques serrées qui s'implantaient le long du Rhône parce que c'était aussi une manière d'y développer des industries. On a tout cassé, on a fait le quai du Segey, ça c'est pour la façade, et on a fait l'arrière du quai du Segey avec un énorme maillon routier qui avait ambition de poursuivre la route des jeunes, qui est quasi une autoroute, de la faire rentrer en pleine ville et d'aller aboutir sur, heureusement, qui ne s'est pas fait, l'échangeur autoroutier des grottes. Donc, heureusement qu'on a arrêté cette planif des années 50, parce qu'on se serait retrouvé avec un monstre échangeur routier à la place du quartier des grottes. À cette échelle-là, ça prenait à peu près tout le quartier. Heureusement que les habitants se sont réveillés dans les années 80 et réussir à attraper le coup, parce que après, pour faire marche arrière, par rapport à des structurations comme ça, c'est un peu cuit. Alors, on a réussi, on a laissé passer des trucs, effectivement, derrière le bâtiment du Segey, on a toujours ce truc un peu autoroutier, mais au moins il s'arrête, au moins il se calme, et au moins on peut habiter à l'autre bout. Mais on revient un petit peu de loin. Donc ça, je vous dis. Pour revenir à une échelle plus petite, plus matérielle, plus concrète. Je vous ai balancé plein de trucs abstraits, on va revenir sur des trucs un peu plus tangibles. Quelques petits exemples de construction de ces dernières décennies. On a vraiment voulu laisser sa place à l'automobile. Ça a été une volonté constante. Ça s'est rematérialisé avec cet article qui se trouve étonnamment, à mon sens, dans la Constitution, où il n'y a pas grand-chose à faire, sur la liberté des déplacements. Ça, je n'aimais que mon point de vue perso là-dessus. Est-ce que cette liberté des déplacements n'est pas finalement stimulante de ce fantasme d'arriver tous dans le micro-centre-ville, chacun avec notre voiture? Le fait qu'on soit libre, c'est bien, mais le fait qu'il n'y ait pas assez de place pour tout le monde, ça donne quand même des limites au système. Exemple, en bas de la rue Voltaire, un rez-de-chaussée qui donne sur les voies ferrées. Une opération qui avait lieu dans les années de début 2000 à peu près, que j'avais suivi dans ce cas-là quand j'étais à la ville de Genève. Et la ville de Genève, donc à cette époque, avions demandé aux constructeurs et aux cantons de renoncer complètement à toute... tout stationnement automobile pour ce bâtiment. On disait, ok, vous densifiez, vous construisez, vous pouvez même monter des niveaux, mais pas de bagnole, parce qu'on est sur un axe qu'on a prévu de longue date pour devenir à terme un élément de voie verte et que cette route du Mandement puisse devenir cyclable. C'est une vision qui est partagée par la ville, par le canton. On est tous d'accord pour dire, à terme, il faudra arriver à rendre cet axe cyclable. Et pourtant, quand on a négocié avec le promoteur et avec le canton pour dire... il va falloir enlever les voitures de ce rez-de-chaussée, ben, on nous a dit non, on applique la norme, basta. Donc on a bousillé tout le rez-de-chaussée pour garer deux bagnoles, parce que c'était tout ce qu'il y avait comme place. Du coup, on n'a pas de commerce au rez sur l'axe. Et en plus, on a créé un truc qui, dans 20 ans, va être encore un accès bagnole sur un itinéraire cyclable. Mince, on s'est loupé. Et oui, ben, cette petite histoire, elle raconte bien que c'est chaque fois des bagarres, des tiraillements. Et qu'il n'y a pas un grand chef d'orchestre, un grand Manitou qui claque des doigts et qui va tout d'un coup vous poser une ville toute faite au milieu de la table. Non, c'est des bagarres, c'est des discussions sans fin, des rapports de force, des combats, plein de choses qui font qu'un coup ça passe, un coup ça passe pas. On arrive à faire passer des morceaux, puis de temps en temps, il faut en manger, hein, qu'on n'a pas envie de manger. Deuxième exemple, un peu, qui raconte... même type d'histoire, hein, cette fois c'est plus grande échelle, vous vous situez sur l'avenue Giuseppe Motta, vous êtes en train de marcher, je ne vais pas vous dire que vous êtes au volant, vous êtes en train de marcher en direction de la place des Nations. Et vous arrivez sur la place des Nations, vous avez à votre gauche tout le quartier des Genêts, donc ancien quartier Villa, dans les années 80, qu'on a fait progressivement muter pour devenir un quartier d'habitation dense, sur le postulat, que je revendiquais aussi comme urbaniste, de dire, on est tellement proche du centre-ville que ça ne peut pas être un endroit pour une poignée de résidences privées. Il y a une capacité, une compétence de ce lieu à accueillir beaucoup de monde. Et quand on a commencé à monter l'urbanisation progressive de ce secteur, le canton nous a dit, ben, vous allez nous mettre quasi deux places, deux stationnements par logement. Et vu qu'on n'aime pas les bagnoles en surface, que ça fait moche, on les cache, on les met dessous. Formidable. Alors, on peut aller visiter ce quartier quand vous voulez. Vous allez voir un quartier, c'est assez joliment fait. Il y a des jardins, des haies, des trucs. Il n'y a juste personne. Mais bon, c'est joli. Mais il n'y a personne. Et pourtant, il y a du monde qui habite là. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a construit? On a construit un système... où le matin, vous avez bu votre café dans votre appartement, avec votre super machine à café, vous en allez au bistrot, chez vous, prenez votre ascenseur, ne croisez pas trop de monde dans les ascenseurs, vous arrivez dans votre parking souterrain, vous faites sauter les clés de votre voiture dans votre main, et hop, parti en voiture. Rapport avec le quartier, zéro. Plus-value sociale, zéro. Et maintenant, animation... quand j'ai bossé au service social, on est venu nous tirer un petit peu la manche en disant « Et dites donc, notre quartier est mort, venez nous aider à le réparer un petit peu. » Mais mince, c'est fait ça. Ce quartier des Genêts, maintenant, les places de bagnole sous les immeubles, elles y sont. Et on dit souvent que les architectes ou les urbanistes n'enterrent pas leurs erreurs. On aura du mal à enterrer ça. moindre bouchée de tous les parkings, ce sera difficile. On a créé un générateur de voitures avec ce dispositif et qui, en plus, atteint un petit peu la vie sociale du quartier. Alors, je ne suis pas drôle, hein, là, je vous dis des trucs un peu loser, un peu pessimiste. Mais en même temps, voilà, je vous le disais, c'est une bagarre, ça ne se fera pas tout seul, ça tiraille, il faut se convaincre, il faut convaincre les autres, il faut s'organiser peut-être un peu collectivement pour pouvoir retrouver un petit peu d'utopie. Et là, j'y reviens davantage hein, sur cette utopie d'une ville sans voiture. L'utopie, je le dis avec un U amoureux, je dirais, c'est une utopie que j'affectionne personnellement. Et j'aimerais bien qu'on y arrive. Les utopies sont faites pour ça, après tout. Le réseau tram, on n'en avait pas grand-chose. Hein. Si vous vous rappelez, il y a 10 ans, on avait la ligne 12. Puis voilà, quoi, en gros, c'était fini. Et puis finalement, maintenant, on a le tram Bernay, on a le tram qui va au CERN. On a demain... ça, c'était hier. On a quasi aujourd'hui, ou en fin de soirée, disons, non... à très court terme, le tram qui arrive à Annemasse, centre, bon sang, mais c'est formidable ça. Ça n'existait pas, c'était même pas concevable. Ça aussi, un méga bel objet conçu côté français, côté suisse. On est arrivé à se mettre d'accord, se dire résolvons ensemble notre problème de transport. Et ça, c'est de l'intelligence collective, et ça, c'est en marche. Donc, on n'a pas tout perdu. Ensuite, le réseau SEVA. Là aussi, je suis passé tout à l'heure mais justement à la gare des Eaux-Vives. Ça construit, hein, elle pousse la gare des Eaux-Vives, elle sort. La gare de Pont-Rouge et puis les autres gares, ça va nous donner quelque chose qui est enfin une opportunité de se concevoir ensemble comme une ville que j'appellerais redéployée par rapport à une ville qu'on a conçue jusqu'à présent comme une ville à centre, avec une gare qui est le centre de tout, qui est toute proche du centre historique ancien, donc qui concentre tout ça dans l'espace très rikiki que je vous ai décrit tout à l'heure de l'hypercentre. Et finalement, ces gares autres vont permettre de se sortir un petit peu la tête de l'oreiller ou du seau qu'on s'est mis sur la tête, où on est tous handicapés chaque fois qu'on fait un parcours, parce qu'on doit passer par Cornavin, qu'on le veuille ou non, que ça fait un détour, que les bus s'embrouillent parmi dans Cornavin. Ce petit système centré atteint ses limites, là aussi. Maintenant, ces nouvelles gares vont nous faire reconcevoir tout ça d'une façon très différente, avec peut-être, sur le mode aussi zurichois, où la Zurich s'est construit, lui, non pas autour d'un noyau central, mais autour d'un réseau ferroviaire avec des stations. Et là, on va retrouver une géométrie qui ressemble un peu à celle de Zurich. Si vous regardez, je vous invite à le faire, regardez une photo de Zurich avec Google Maps ou n'importe quel autre machin, satellite, vraiment de très haut, et vous allez comprendre tout de suite, vous voyez un réseau ferré, et vous voyez sur le réseau ferré les poches de densité qui se sont mises en place, des petits bleds, et en gros, quand on va dans un de ces petits bleds, on fait 10 minutes de vélo, tranquille, sur un truc bien équipé, cool, on arrive à la gare, on a un range vélo, on en a un devant chez soi, on en a un à la gare, on fait 10 minutes de vélo, on est bien, train tranquille, régulier, on arrive au centre de Zurich, et on n'a plus qu'à se finir à pied, et c'est bon. Et c'est tranquille, c'est fluide, c'est relax. Donc ça peut marcher. Ces gens qui habitent dans ces petites communes suburbaines zurichoises n'utilisent pas leur bagnole, et d'ailleurs, en général, non plus, ou alors une à plusieurs, des choses comme ça. J'avoue qu'aussi, financièrement, c'est pas plus mal, parce que ça tape un petit peu quand même sur un budget de ménage. Et enfin, autre objet qui fait aussi jubiler, c'est le réseau des voies vertes. Là encore, hein, il y a 10 ans, quand on avait lancé ça au niveau ville de Genève, c'était un peu une utopie. Bah, maintenant, la voie verte, je l'ai prise tout à l'heure. Ça commence, elle n'est pas finie. Il faut en faire encore des jolis tronçons, beaucoup. Il faut boucler les parcours, il faut les connecter, ça prend du temps. Mais finalement, par rapport au temps d'élaboration d'une ville, on va réussir ça en un temps relativement court pour ce qui est d'une mutation urbaine de l'ordre d'une dizaine d'années. Et je pense que gare plus voie verte, plus reconception du système de transport font qu'on va avoir de plus en plus de solutions possibles sur la métrique que nous a montré Giovanna tout à l'heure. Hein, on est tout proche. C'est Genève-Annemasse 5 kilos. C'est pas... Je ne me suis pas cassé les jambes hein, à aller à Annemasse cet après-midi. C'était tranquille. 5 km, ce n'est pas la mort du cheval. Donc, c'est possible. Et ces nouvelles gares vont nous donner des points d'accès et une capacité à se redistribuer sur la gare de Cornavin, si on veut vraiment aller au centre, mais qui devrait être complètement différente de ce qu'on a aujourd'hui. Et là, il y a un vrai espoir de faire quelque chose à tous ces tiraillements près que je vous ai évoqués tout à l'heure. J'en arrive à une conclusion, parce que je le pose trop. Finalement, quelques petits éléments qu'on peut mettre en avant, des objets sur lesquels il peut être intéressant de réfléchir, voire d'être aussi protagoniste et d'influer sur l'avenir de notre ville. Primo, c'est réfléchir deux fois avant de créer un parking. Parce que c'est très facile à créer, surtout sur du goudron, hein, coup de peinture, paf. Une fois que c'est là, et que ça rapporte 200 balles par mois au propriétaire du bout de goudron, pour l'enlever, c'est difficile. Sachant qu'en plus, c'est le propriétaire, s'il a un grand bout de goudron, ça lui rapporte beaucoup. Financièrement, le parking est extrêmement rentable. Il y a guère mieux en termes de rentabilité immobilière pour faire de l'argent. Donc, une fois que c'est fait, on ne le défait pas. Parce que le propriétaire, ça m'est arrivé, fait son petit calcul, il me dit ce truc, ça me rapporte 12 000 balles par an.
Souterrain
aussi, voilà. Voilà. Le propriétaire fait son calcul, il dit ça, tous ces parkings, ça me rapporte, disons, 12 000 francs par an. Pour toucher 12 000 francs par an, il faudrait que j'aie à la banque un capital de, 800 000 francs, ou quelque chose comme ça. Donc, mon parking vaut 800 000 balles. Et ça renchérit le prix du terrain et c'est irréversible. Donc il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait quand on crée du parking. Ça j'ai déjà dit. Donc je dis oui, en route, ou en marche, pas en marche parce que ça fait penser à d'autres trucs. En route, ça ne va pas aller non plus. Enfin, allez, avançons. Avançons pour une ville qui soit plus désirable, bon sang. C'est ça l'enjeu aussi. C'est pas simplement le mode technique du transport pour aller d'un point à un autre. C'est aussi de réenchanter notre territoire urbain, d'avoir envie qu'il y ait un dialogue où on l'aime, ce territoire. Si vous regardez là où on est un petit peu plus à grande échelle, tous les abords du Collège Voltaire, quand vous sortirez, vous me direz si ce territoire se laisse aimer ou pas. C'est pas facile. Hein tous ces grillages, tous ces obstacles qu'on a mis, toutes ces ruptures de niveau, ces bricolages successifs empilés, c'est pas très aimable, mince, on s'est un peu loupé là aussi. Et pourtant, c'est là, en aimant nos villes, en les réinvestissant d'une autre façon, peut-être un peu moins le nez aussi dans nos téléphones, qu'on arrivera à faire une ville qui soit vraiment une ville à aimer, et que la fonction du déplacement soit pas simplement un challenge technique à résoudre, mais puisse être un sacré levier de plus-value en matière de cohésion sociale. Parce que la façon dont on se déplace, c'est aussi la façon dont on interagit les uns avec les autres. J'en finis.